Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers amis auditeurs, méditons ensemble sur les versets 47, 48 et 49 de la Sainte Sourate Younes.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون تأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
À chaque communauté, un messager. Puis, quand vient leur messager, tout se décide entre eux à la balance. On ne leur manquera cependant pas. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, je ne suis maître pour moi, ni de mal ni de bien, que celui que Dieu veut. À chaque communauté, un terme. Quand leur terme arrive, Ils ne peuvent alors ni retarder d'une heure, ni avancer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 5 avril 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran ne cédera jamais aux exigences excessives des États-Unis, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. Au moins 11 blessés lors de grands rassemblements à Al-Quds occupé. Le premier ministre de transition burkinabé annonce une diversification de la coopération militaire. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Nous ne céderons jamais aux demandes excessives des États-Unis dans les pourparlers de relance du plan global d'action conjoint, a réitéré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. S'il y a une pause dans le cours des pourparlers de Vienne, c'est en raison des exigences excessives de la partie américaine, a déclaré lundi le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian dans un message sur son compte Twitter. Le ministère iranien des Affaires étrangères agit avec puissance et logique afin de garantir les intérêts les plus élevés de la nation iranienne tout en respectant les lignes rouges du pays, a-t-il souligné. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que l'Iran et le groupe de pays P4+1 peuvent parvenir à un accord final à Vienne si la Maison-Blanche se comporte de manière réaliste. L'Iran ne retournera à Vienne que pour finaliser un accord sur le dossier nucléaire avec les grandes puissances, a affirmé lundi 4 avril le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh. Nous ne nous rendons à Vienne pour de nouvelles négociations, mais pour finaliser un accord sur le nucléaire. Il faut donc attendre la réponse de Washington aux questions de suspens, a dit et déclaré lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran. Pour le moment, nous n'avons pas encore de réponse définitive de la part de Washington. Si Washington répond aux questions en suspens, nous pouvons nous rendre à Vienne pour dans les plus brefs délais, a-t-il ajouté. ouvrait d'abord une enquête sur la Yougoslavie et l'Irak de cet enterre, mais que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a réagi aux récents propos du président américain. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a commenté l'appel du président américain Joe Biden à la création d'un tribunal pour poursuivre en justice le président russe Vladimir Poutine au sujet de la crise en Ukraine. Quelle bonne idée, mais qu'il commence par les raids sur la Yougoslavie et l'occupation de l'Irak, a écrit Zakharova sur son compte dans Telegram. On peut aussi trouver le meilleur metteur en scène à Srebrenica et bien sûr le trafic d'organes au Kosovo sous la protection d'officiels américains, a-t-elle ajouté de poursuivre. Une fois que vous avez terminé, ouvrez une enquête sur le bombardement nucléaire du Japon. Au moins 11 blessés ont été dénombrés parmi les manifestants lors de grands rassemblements palestiniens devant la porte de Damas, voie d'accès au quartier musulman de la vieille ville d'Al-Quds et à l'esplanade des mosquées à l'occasion du mois béni du Ramadan. Les policiers de l'occupation israélienne ont lancé de tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes et sur les manifestants palestiniens devant la porte de Damas, une des principales voies d'accès au quartier musulman de la vieille ville d'Al-Quds. La police israélienne avait fait état de 10 arrestations et d'un officier blessé intervenant en marge de grands rassemblements à l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Le Premier ministre burkinabé de transition annonce une diversification de la coopération militaire. Le Premier ministre de transition au Burkina Faso a déclaré au Parlement intérimaire que son pays allait diversifier les partenariats en matière de coopération militaire. En ce qui concerne la coopération militaire avec d'autres États, notamment, l'option est désormais de diversifier le partenariat afin d'optimiser les atouts spécifiques de chaque partenaire. En tout état de cause, ces partenariats seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sincérité, a-t-il souligné. Le chef du gouvernement de transition a présenté lundi une feuille de route orientée principalement sur la lutte contre le terrorisme et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Et le président sénégalais Macky Sall a appelé de ses compatriotes à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage les produits locaux, soulignant que de cette manière, ils pourraient consommer local face à la flambée des prix des denrées sur le plan international. Eh bien, avec cette dernière nouvelle en provenance du Sénégal, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La plus grande banque allemande met en garde contre les dangers de l'abandon du gaz russe, dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le directeur de la banque allemande a affirmé que l'économie allemande risque de connaître une récession importante en cas de refus total d'importer du pétrole et du gaz de Russie. Lors d'une conférence de presse, M. De Schwing a indiqué que les banques du pays s'attendent à ce que la croissance de l'économie allemande ralentisse à environ 2% d'ici la fin de cette année. Plutôt, les principales institutions économiques allemandes ont réduit de près de moitié leurs prévisions de croissance du PIB du pays en 2022 en raison de la crise en Ukraine qui devrait désormais croître de 2,1% au lieu de 4% prévus. Selon les médias américains citant le banquier allemand, la situation s'aggravera si les importations ou les approvisionnements de pétrole et de gaz naturel russe sont suspendus. Auquel cas, une grande récession en Allemagne sera presque inévitable. Dans ce cas, a ajouté M. Schwing, les mesures de soutien de l'État aux entreprises allemandes seraient une question urgente et un problème aigu. La Banque centrale européenne a de nouveau appelé à des mesures pour lutter contre l'inflation. Selon l'Office fédéral allemand de la statistique, l'inflation annuelle du pays, selon des estimations préliminaires, s'est maintenant accélérée à 7,3% contre 5,1% le mois précédent. De son côté, le ministre allemand des Finances a déclaré que l'Allemagne ne peut se dépasser du gaz russe pour le moment, voire les sanctions imposées à Moscou dans ce secteur nuiront plus à l'Europe qu'à la Russie. Nous devrions envisager d'imposer des sanctions sévères, mais pour le moment, l'approvisionnement en gaz russe ne peut pas être remplacé, a déclaré le ministre allemand des Finances à Luxembourg avant une réunion avec ses homologues de l'Union européenne. Avant l'opération militaire russe en Ukraine, l'Union européenne importait 40% de ses besoins en gaz de Russie et l'Allemagne était la plus dépendante du gaz russe qui représentait 55% de sa consommation. La Russie a prouvé au cours des dernières décennies qu'elle est un fournisseur fiable de ressources énergétiques et selon les données officielles, la société russe Gazprom a exporté en 2020 environ 157 milliards de mètres cubes de gaz.
À toutes et à tous, et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler du Mali et en effet, l'Occident et particulièrement la France ont tout fait pour neutraliser économiquement et militairement ce pays et bien sûr se voit confronté à présent à une détermination complète pour arriver à une souveraineté, une indépendance complète de leur pays. Et ceci malgré toutes ces sanctions exercées à leur encontre. Alors, les manifestations anti-occupation se poursuivent à travers tout le pays et on voit aucun signe de découragement chez le peuple malien. Tout au contraire, ils exigent même l'autonomie monétaire de leur pays. Donc, ce qui est très, très important et nous préfèrent, bien sûr, se retirer de la CEDEAO. On parlera, bien sûr, au cours de ce débat, de cette marche historique des Sénégalais à pied donc, 1630 kilomètres, c'est énorme donc, pour venir en aide du peuple malien et bien sûr exprimer leur soutien à l'égard du peuple malien. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Pour le maintien de la souveraineté du Mali va de l'avant, cette lutte a désormais très clairement deux volets. militaire et économique. En effet, dans le cadre du renforcement de sa capacité militaire, afin de mieux sécuriser son territoire en proie aux attaques terroristes, le Mali a réceptionné de nouveaux équipements militaires de fabrication russe. Il s'agit essentiellement de matériel technologique pour le renseignement militaire. Ils ont été réceptionnés à l'aéroport de Bamako par le ministre malien de la Défense, Sadio Camara. Ce volet militaire va avec un volet économique. Les manifestations anti-occupation se poursuivent au Mali et les manifestants ont exigé ce vendredi le retrait du Mali de la CEDEAO. De leur côté, partis de Dakar le 16 février dernier, les Sénégalais panafricanistes ont marché 1360 km pour arriver à Bamako, une arrivée après 40 jours de marche célébrée par des Maliens avec des chants. Pour ces Sénégalais, c'est une manière de soutenir le peuple malien qui subit actuellement les lourdes sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA. De son côté, les propos de M. Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, prouvent à quel point le Mali est décidé, déterminé à briser l'embargo, quitte à préparer le terrain à un retrait du Mali du franc CFA, parallèlement à la guerre que mènent la Russie et les États comme l'Iran contre l'impérialisme.
Jeunes gens aujourd'hui qui se sont soulevés contre des sanctions inhumaines, injustes, illégales prises à l'encontre de notre pays par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 9 janvier, je crois qu'il est un signe extrêmement fort. C'est le signal que le Mali et le Sénégal sont deux États, mais c'est un seul peuple. C'est aussi le signal que nos populations sont malheureusement, Monsieur le Président, en avance sur nous-mêmes, dirigeants, parce qu'ils savent ce qui nous unit, ils connaissent la profondeur de nos relations. Toutes décisions que nos dirigeants doivent prendre doivent tenir compte de l'impact sur les populations que nous servons au quotidien. Je crois que c'est un message à l'endroit de nos chefs d'État et de gouvernement de la région, mais c'est aussi un message à l'endroit de la communauté internationale de prendre le temps d'étudier, de comprendre nos pays, nos populations, de prendre en charge leurs aspirations et de ne rien faire qui puisse compliquer la situation que nous vivons déjà au quotidien avec une juxtaposition, Monsieur le Président, de crise sécuritaire, crise politique, crise économique, crise sociale. Les dirigeants devront aujourd'hui suivre les peuples pour qu'on puisse lever ces sanctions, pour que nos pays puissent cheminer, aller vers la stabilité, aller vers la sécurité, aller vers la solidarité, aller vers des liens économiques et des liens sociaux qui ont toujours tissé, j'allais dire irrigué, les relations entre nos pays. Je voulais très humblement, Monsieur le Président, avec votre permission, m'en arrêter là, et tout en saluant vraiment les efforts énormes que cette jeunesse a fait et aussi la belle leçon qu'elle est en train de nous enseigner ici au Mali et dans la région.
Voilà pour le reportage. Merci d'être avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités. En commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, à toute l'équipe. Et à M. Hugon, que j'ai le plaisir de retrouver, d'habitude.
Tout à fait. Justement, M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui nous joint depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Bonjour à vos auditeurs et bonjour bien sûr à tous.
C'est un plaisir de vous recevoir. Ma première question va s'adresser à M. Luc Michel depuis Bruxelles. Alors Luc Michel, le peuple malien est plus déterminé que jamais pour arriver à une souveraineté, une indépendance complète. Que pensez-vous?
Écoutez, c'est la réalité. Toutes les choses ont changé en Afrique à partir de 2015-2016.
Malheureusement, nous avons un problème technique. Nous allons essayer de joindre M. Luc Michel tout à l'heure. Mais je vais m'adresser à présent à M. Philippe Hugon depuis Paris. M. Philippe Hugon, cette souveraineté totale qu'exige le peuple malien, c'est bien sûr très juste.
Ah, tout à fait. C'est une aspiration légitime de beaucoup de peuples et de pays. Moi, je crois que nous avons en France un véritable problème avec l'Afrique. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la France-Afrique, hein, c'est tous ces pays qui dépendent, bien sûr, et qui ont dépendu très longtemps de l'aide de la France. Donc on s'est permis, pendant des années, de leur imposer un certain nombre de choix, qu'ils soient d'ailleurs politiques, sociaux, économiques,
Je crois que l'époque du colonialisme est une époque qui est maintenant révolue, et il est temps que l'Afrique, entre guillemets, vole de ses propres ailes, puisse se développer à son rythme. On sait très bien qu'en fonction des peuples, des religions, des croyances, eh bien, il faut laisser aux gens le temps d'évoluer à leur façon et surtout à leur vitesse, et arrêter de leur imposer des choix qui ne sont pas les leurs, donc ce qui n'est pas en adéquation avec l'évolution de l'Europe. On ne peut pas comparer deux continents comme l'Afrique et l'Europe. Eh bien, le fait de prendre la décision de leur imposer un grand nombre de choix qui ne sont pas les leurs, hein, parce qu'il faut le rappeler, eh bien, on arrive à des situations de conflit, et ceci développe des rancunes, des colères, des ressentiments qui sont très mauvais pour les relations à long terme sur des relations internationales entre le Mali et la France. Alors là, on parle du Mali, mais c'est également dans nombreux pays d'Afrique où la France ou les Britanniques ont été présents et ont toujours imposé un certain nombre de décisions qui n'étaient pas les leurs, et décisions qui ne sont d'ailleurs pas en adéquation avec leur culture, avec leur éducation. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que les pays européens comprennent que l'époque du colonialisme est révolue. Les Africains ne sont pas les esclaves de l'Europe, et il faut les laisser se développer à leur rythme afin qu'on retrouve une situation plus normale et que ces pays puissent enfin suivre leur destin et se développer à leur rythme.
Oui, tout à fait. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis revenu.
Voilà, Monsieur Luc Michel. Alors, si vous
par le téléphone.
Oui, si vous vous mettez à la place de la France et de l'Occident, pourquoi redonner l'indépendance à nouveau au Mali alors qu'on a pillé depuis 8 ans la richesse de ce pays?
Mais parce que la France ne peut pas quitter le Mali. Le Mali produit un élément essentiel à l'économie française qui est l'uranium. Vous savez que Areva, c'était de jouer un rôle mondial dans la production de centrales nucléaires, n'oublie pas une once en France. Cet uranium vient du Niger et du Mali. Au Niger, il est en partie actuellement par la multinationale électrique, et donc Areva a dû se replier sur le Mali. Il n'est pas question pour les Français de quitter le Mali, donc l'uranium. Pourquoi donc il y a maintenant de nouveau une grande attaque qui est menée depuis ce matin par le département d'État? On accuse le groupe Wagner, le groupe Wagner qui n'existe sur médiatique de la propagande occidentale, on accuse le groupe Wagner donc d'être responsable dans la région de Mopti et dans la ville de Moubra. C'est la même diatique qui sont employées en Ukraine et au Mali contre le bloc de l'Est. Les Occidentaux ont décidé d'attiguer puisque partout les mêmes scénarios éculés.
Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord tout de même que les choses ont évolué depuis 2015, vous l'avez dit tout à l'heure justement, et que maintenant, c'est bien différent. Cette fois, la détermination du peuple malien et bien sûr ses voisins, comme le Sénégal, le Niger ou bien le Burkina Faso, est bien différent de l'époque. Donc cette fois, est-ce que vraiment l'Occident va partir et vont redonner l'indépendance à ce pays, avec l'aide bien sûr de ses voisins?
Oui. En tout cas, les pays africains maintenant, ils ont de l'oxygène militaire et géopolitique grâce à la Russie. 18 grâce. Les États africains aujourd'hui, ils ont le choix de leur alliance, notamment militaire. C'est ce qui se passe en Centrafrique et au Mali. Et d'autres États africains, comme le Sénégal ou la Guinée-Conakry, ont la possibilité d'avoir une politique de neutralité. C'est particulièrement, je vois, un coup d'État pro-américain mené par le lieutenant-colonel Dombouya, l'officier de liaison entre l'armée guinéenne et l'Africom, mais aujourd'hui, pour des raisons économiques, la Guinée va soutenir Mali, puisque les deux économies sont liées, et la Guinée-Conakry a choisi le bloc de l'Est de s'éloigner des Américains et des Français. C'est la même chose au Sénégal. En 2015, appuyé par les réseaux de Georges Soros, mais aujourd'hui, il a pris ses distances vis-à-vis de la France et des Américains, parce que lui non plus ne peut pas soutenir les sanctions contre le Mali. Et pour le Sénégal, qui est producteur de gaz, s'est rallié au bloc de l'Est. Il y a eu le sommet de Doha il y a quelques semaines. Le Sénégal y a pris position, comme il l'avait déjà fait précédemment, vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis de la Russie. Il est membre de l'OPEP du gaz. Il soutient l'Iran dans le cadre de la guerre du gaz et dans le cadre des hydrocarbures, c'est-à-dire des nouveaux gisements pétroliers. Il soutient le russe Lukoil et le bloc de l'Est. C'est cela qui a changé avec l'arrivée des Russes et des Iraniens en Afrique.
Absolument. Philippe Hugon, alors, c'est vrai que depuis que le Mali a décidé de se rapprocher de la Russie et après avoir livré du matériel d'armement au Mali, en un mois, donc, ils ont tué plus de terroristes que la France a tué pendant 8 ans. Donc ça veut beaucoup dire, donc, déjà. Et également, le Mali a décidé de se rapprocher vers l'Iran, donc un pays qui se bat donc, contre l'impérialisme. Et depuis, le Mali se porte mieux.
Oui.
Philippe Hugon, allez-y.
Oui. Oui. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, la France mène une politique qui ne va pas s'arrêter, contrairement à ce qu'on peut penser, pour une raison toute simple. C'est le conflit avec l'Ukraine. La France a besoin d'uranium pour faire tourner ses centrales, puisque la France a annoncé depuis quelques semaines maintenant qu'il y aurait la construction de nouvelles centrales. Donc il est clair qu'avec l'uranium qu'il y a au Mali, je pense que ça va être très, très difficile pour le Mali de pouvoir retrouver une position plus normale. Et je pense que la France fera tout ce qu'il faut pour ingérer dans les affaires du Mali, comme elle l'a déjà fait de nombreuses fois. C'est pas spécifique, je dirais, au Mali. Hein. Toutes les grandes puissances européennes ou mondiales ont ingéré dans les affaires d'un grand nombre de pays, quitte à créer des chaos locaux, c'est-à-dire des conflits, de façon à pouvoir maintenir leur présence sur place. Maintenant, je pense que ça va être très difficile comme position à tenir sur un plan international, puisque la France et les États-Unis, les Britanniques sont condamnés de partout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la situation économique que nous avons dans le monde occidental, et on s'aperçoit que les populations sont beaucoup moins réceptives aux problèmes du monde dus à cette situation économique. Et les gens pensent bien sûr à leur survie financière, à leur survie professionnelle. Donc il va être très difficile de pouvoir retrouver une situation normale.
Oui. Luc Michel, est-ce que vous partagez le pessimisme de M. Philippe Hugon quant à la situation au Mali et cette intervention militaire de la Russie en Ukraine? Est-ce que ça va compliquer les choses?
Non, moi je pense simplement que la radicalisation entre les deux blocs, le bloc américain occidental et le bloc de l'Est, est une possibilité au contraire de libération, en particulier pour l'Afrique. Ce qui se passe en Centrafrique et au Mali n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas la confrontation entre les blocs. Et je vais ajouter quelque chose, il y a un domaine qu'on oublie, c'est le domaine de la guerre médiatique. Dans la guerre médiatique, il y a eu une séquelle de l'interdiction de Rucha Toudé et de Stik et des attaques contre mon groupe multimédia.
Malheureusement, nous avons perdu M. Luc Michel. Nous allons essayer de le rejoindre tout à l'heure. Donc, je vais m'adresser à nouveau à M. Philippe Hugon depuis Paris. Alors, M. Philippe Hugon, cette détermination, bien sûr, du Mali et ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, vous dites que la France donc, ne sera pas prête à partir donc, de ce pays, même à l'aide, donc le Sénégal par exemple, le Niger et d'autres pays, pour compenser un peu ces pertes économiques?
Ah oui, moi je pense sincèrement que la France n'est pas prête à quitter le Mali et pas prête à quitter l'Afrique. Si la France quitte l'Afrique, c'est parce qu'elle n'aura pas d'autre choix. Cela sera sous la pression internationale ou pour des raisons militaires. Donc, il est clair que l'Afrique va encore souffrir de ce pseudo-colonialisme qu'on veut à tout prix imposer. Maintenant, il est clair que l'arrivée en Afrique du bloc de l'Est avec la Russie va modifier les rapports de force, et c'est certainement une chance pour l'Afrique d'avoir des alliés comme les Russes qui ne vont pas laisser partir un certain nombre de pays avec la France.
Est-ce que ce n'est pas déjà fait, M. Philippe Gon, ce n'est pas déjà fait, ce rapport de force avec cette intervention russe au Mali?
Alors, c'est déjà fait, bien sûr, mais c'est que le commencement. Je pense que les Russes ont une façon d'entrevoir les choses qui sont totalement différentes de la diplomatie ou des interventions européenne. Moi, je pense que c'est une très, très bonne chose pour l'Afrique. Maintenant, il y a ce problème ukrainien où je pense que la Russie a commis une erreur de stratégie importante, quand je pense qu'il y avait quand même d'autres moyens imposés, et qui décrédibilise la Russie, ce qui donne certainement des points d'interrogation à certains pays d'Afrique et qui n'auront peut-être pas l'engagement vis-à-vis des Russes qu'ils devraient avoir. Donc ça va poser au niveau international un certain nombre de problèmes et un certain nombre de tensions, et je pense que cette situation va perdurer dans quelques années, dans le temps. Hein. Ça, c'est, moi j'en suis absolument convaincu, les choses ne pourront pas se régler comme ça, et il faudra bien sûr trouver des solutions de façon à ce que la France puisse se retirer. Mais ces solutions-là vont être des solutions très, très difficiles parce que la France ne sera que contrainte et forcée.
Absolument. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je ne partage pas du tout l'avis de Monsieur Hugo.
Allez-y.
Je ne pense pas que la Russie a fait une erreur en intervenant en Ukraine. Et pour être quotidiennement, moi, en Afrique, je peux vous dire que les masses panafricaines sont enthousiasmées et soutiennent à 1000% Vladimir Poutine. L'intervention russe en Ukraine a prouvé, au contraire, le sérieux de la Russie et sa capacité à agir contre les Occidentaux, contre les Américains et contre l'OTAN. Partout en Afrique, les masses panafricaines soutiennent la Russie. Ce n'est pas du tout ce qu'on raconte dans les médias occidentaux comme France 24 ou RFI. Et au contraire, bien entendu, la Russie n'est pas isolée. Elle a le soutien non seulement des masses africaines, mais du Proche-Orient, des Chinois et des masses asiatiques. Ce qui se passe là-bas n'est pas du tout une erreur de stratégie. Ça, c'est ce que présentent les médias de l'OTAN. Et la meilleure preuve de la panique qui ressort devant la Russie, c'est cette campagne médiatique qui accuse de crimes de guerre non seulement la Russie en Ukraine, mais la Russie au Mali également, parce que c'est la même solution. La guerre médiatique, elle est en train d'être perdue par les Occidentaux, en particulier au Mali, où on a interdit France 24 et RFI, et le ministre Le Drian est intervenu dans l'UE pour se plaindre du manque de liberté de la presse en Afrique, en oubliant qu'eux-mêmes avaient commencé par interdire Sputnik, Rushatoudé et attaquer mon groupe multimédia, dont on essaye de détruire médiatiquement, enfin. Donc, ce n'est pas du tout une erreur. Et il y a un autre élément d'ailleurs, c'est les accords militaires qui viennent d'être faits par la junte du Burkina Faso, qui ont préféré choisir des accords militaires avec la Russie à des accords militaires avec la France. Ce n'était pas évident au premier jour du coup d'État au Burkina Faso. C'est donc un succès de la Russie appuyé par l'Iran.
Philippe Hugon, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, alors moi je ne suis pas du tout d'avis de Michel à ce niveau-là. La Russie économiquement et financièrement est dans de grandes difficultés. Et puis, moi, ce conflit, c'est des victimes humaines, qu'elles soient russes ou ukrainiennes, peu importe, hein, on sait bien qu'il y a des milliers de victimes. Et rien ne peut justifier ces assassinats, enfin, tous ces morts. Donc, moi, je pense qu'il y avait quand même d'autres solutions. Ce déclenchement de conflit, il sera de toute façon, il sera toujours incité à la Russie. Alors, d'ailleurs, il y a un grand nombre de Russes qui sont contre cette intervention, parce que finalement, si vous regardez bien, la Russie a mené la même politique que les États-Unis il y a 50 ans. Donc il faut quand même être juste. Et la Russie aujourd'hui ne peut pas prétendre être un élément de paix en Afrique. Alors que les Africains se tournent vers les Russes, c'est tout à fait normal, puisque le monde occidental a commis tellement d'erreurs de stratégie en Afrique, avec beaucoup de coups d'État et beaucoup de victimes, d'innocents qui sont morts par les interventions européennes, françaises, américaines, britanniques, etc. Mais moi, je pense surtout au nombre de victimes, aux innocents qui meurent chaque jour, que ce soit d'un côté ou d'un autre côté. Donc, je ne peux pas cautionner un conflit comme celui-là. D'autant plus que je pense sincèrement qu'il y avait des solutions diplomatiques à trouver, de façon à trouver des compromis et éviter ces milliers de victimes.
Luc Michel, votre réaction, je vous prie.
Je suis déçu de voir M. Hugo se laisser prendre aux sirènes de la propagande occidentale. L'intervention spéciale russe, elle est intervenue alors pour prévenir une offensive de l'armée ukrainienne contre le Donbass, qui massait des troupes et des mercenaires. C'est cela qu'il faut retenir. Donc Poutine n'a pas eu le choix. Il a frappé le premier. Il explique d'ailleurs lui-même qu'il a retenu de ses années de jeunesse à Saint-Pétersbourg que quand un voyou vous agresse, il faut le frapper le premier. La seconde chose qu'il faut retenir, c'est que la Russie, elle est parfaitement préparée à la guerre économique et son but, c'est de dédollariser l'économie mondiale. Donc c'est un bien, évidemment. Et la dernière chose qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que, évidemment, le but de la Russie, c'était de protéger les républiques autonomes de Donetsk et de Lugansk. Quant à savoir si l'opinion russe soutient Poutine, M. Hugo prétend que beaucoup de Russes ne soutiendraient pas Poutine. On a un sondage qui est fait par l'Institut Levada. L'Institut Levada, c'est un institut américain qu'on a préservé en Russie parce que justement il est utile. Et il est financé par la Fondation Carnegie aux États-Unis, c'est-à-dire la CIA. 83% des Russes soutiennent Vladimir Poutine et son opération spéciale dans le Donbass. Donc une immense majorité, à part quelques petits voyous soutenus par les réseaux de Soros à Saint-Pétersbourg et à Moscou qui manifestent contre la guerre, 83% des Russes, c'est-à-dire l'immense majorité stable du peuple russe, soutient l'opération de Vladimir Poutine. Il faut arrêter sur les antennes de presse TV de soutenir les opinions publiques et les opérations de propagande des médias occidentaux.
Luc Michel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir apporté beaucoup de précisions à cette émission. Également, un merci à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
À tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Les États-Unis sont directement responsables de la prolongation des pourparlers de Vienne, selon le ministre iranien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué les États-Unis pour avoir imposé de nouvelles sanctions à certains individus et entreprises iraniennes, tout en déclarant « l'Iran est prêt pour un accord bon et durable ». Mais la partie américaine a été directement responsable de la prolongation des pourparlers jusqu'à présent, malgré quelques exagérations. Le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Badr bin Hamad al-Boussaidi, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, a discuté de certaines questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt mutuel, y compris le cessez-le-feu au Yémen et les pourparlers de Vienne. Dans cet appel téléphonique, le ministre oman des Affaires étrangères a félicité le gouvernement et le peuple iranien pour l'arrivée du mois béni du Ramadan et s'est enthousiasmé de l'établissement d'un cessez-le-feu au Yémen et a remercié l'Iran pour son rôle et ses efforts à cet égard et a exprimé l'espoir que cette question constitue la plateforme nécessaire pour des pourparlers entre toutes les parties yéménites et de la réouverture des frontières du pays. Dans cette conversation téléphonique, le ministre iranien des Affaires étrangères, tout en félicitant son homologue omanien ainsi que le gouvernement et le peuple d'Oman pour le mois béni du Ramadan, et tout en exprimant l'espoir que le cessez-le-feu au Yémen restera stable, a apprécié le rôle constructif d'Oman à cet égard. À cet égard, Amir Abdollahian a déclaré « Ce qui importe maintenant, c'est la levée complète du siège parallèlement à la poursuite du cessez-le-feu. Il est également très important que le peuple yéménite puisse recevoir maintenant une aide humanitaire. En ce qui concerne les pourparlers de Vienne, il a critiqué le fait que les États-Unis réimposent des sanctions à certains individus et entreprises iraniens, notant que la République islamique d'Iran est prête pour un bon accord, un accord durable, mais que les États-Unis ont été directement responsables de la prolongation des pourparlers jusqu'à présent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonino Guterres, s'est entretenu par téléphone avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, au sujet du cessez-le-feu au Yémen et des pourparlers de Vienne. Le secrétaire général de l'ONU a d'abord félicité le cessez-le-feu au Yémen et a poursuivi en disant qu'il s'agissait d'une victoire conjointe résultant des efforts de toutes les parties. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est également déclaré satisfait de l'établissement d'un cessez-le-feu au Yémen et a remercié le secrétaire général pour son rôle et a déclaré « Le moment est venu de prendre des mesures fondamentales vers la paix et la stabilité au Yémen et en particulier la levée complète des sanctions inhumaines ». Exprimant le soutien continu de la République islamique d'Iran pour résoudre la crise yéménite et mettre fin à la guerre dans le pays, Hossein Amir Abdollahian a souligné que nous espérons que le siège complet du peuple yéménite prendra fin en même temps que le cessez-le-feu est établi afin que cette occasion importante ne soit pas manquée. Le chef de la diplomatie iranienne a souligné l'importance d'envoyer une aide humanitaire au Yémen. Hossein Amir Abdollahian a également salué la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen dans la région et a évoqué lors du jour du Conseil de sécurité pour la publication de deux déclarations distinctes sur le Yémen. Nous nous félicitons de la déclaration du Conseil de sécurité en faveur du cessez-le-feu, mais une autre déclaration unilatérale sans tenir compte des attaques saoudiennes contre le Yémen et que condamnant le gouvernement de salut national n'est pas constructif, a souligné Hossein Amir Abdollahian. Concernant les derniers développements liés aux négociations sur la levée des sanctions contre l'Iran à Vienne, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Nous sommes proches d'un accord dans les négociations et nous avons transmis nos propositions sur les questions restantes aux États-Unis par l'intermédiaire du représentant de l'Union européenne et maintenant la balle est dans le camp américain ». Les forces israéliennes ont tué, c'était samedi 2 avril, trois Palestiniens membres du djihad islamique dans un tir direct sur le véhicule dans lequel ils se trouvaient. Le mouvement palestinien du djihad islamique a confirmé leur martyr. Des sources sécuritaires palestiniennes ont indiqué que les forces d'occupation ont refusé de remettre les corps des trois martyrs et ont saisi le véhicule ciblé avant de se retirer des lieux. Les Palestiniens présents sur les lieux ont rapporté sur les réseaux sociaux que les forces israéliennes avaient refusé l'accès aux ambulanciers après que trois combattants de la résistance et était tué au carrefour d'Araba au sud de Jenin en Cisjordanie. Les mouvements de résistance palestiniens affirment la poursuite de lutte contre l'occupation. Le mouvement de résistance de palestinien du Hamas a déploré le martyr de Jenin et confirmé que ce crime renforcera la force de notre peuple à résister et à confronter l'ennemi dans tous les champs. Le sang des trois martyrs confirme le besoin de former un front national qui unifie le potentiel contre l'occupation, a affirmé de son côté le Front populaire de libération de la Palestine. L'assassinat de trois combattants par l'occupation est un crime qui n'intimidera pas notre peuple. Nous appelons la résistance à l'escalade, a déclaré le mouvement des libres Harakat al Ahrar. L'éducation au Liban est en crise à l'image de la situation politique et économique catastrophique du pays qui pèse depuis des années sur les professeurs et les élèves, a alerté un responsable de l'ONU. Nous sommes maintenant dans une situation d'urgence. L'éducation au Liban est en crise parce que le pays traverse une crise, a déclaré l'AFP. Maïsoun de Shehab, responsable du Liban à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Maïsoun de Shehab s'exprimait à Beyrouth en marge d'une cérémonie célébrant l'achèvement d'un projet de 35 millions de dollars de l'UNESCO pour réhabiliter 280 établissements scolaires endommagés par l'explosion au port de la capitale le 4 août 2020. Amnesty International a dénoncé l'intention de la Turquie de transférer à l'Arabie Saoudite le dossier de l'affaire Jamal Khashoggi, journaliste saoudien assassiné en Turquie en 2018. Aujourd'hui est un jour sombre pour ceux qui ont passé plus de 3 ans à faire campagne pour la justice pour le meurtre de Jamal Khashoggi. En transférant l'affaire, la Turquie l'enverra sciemment et volontairement entre les mains de ceux qui en portent la responsabilité, a réagi Agnès Chalamar, secrétaire générale d'Amnesty International, dans un communiqué. L'Arabie Saoudite a refusé à plusieurs reprises de coopérer avec le procureur turc et il est clair que la justice ne peut être rendue par un tribunal saoudien, a souligné encore Amnesty International. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.